Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est une nouvelle saison de Cinérama, et qui dit nouvelle saison, dit nouveau générique, et j'espère que vous avez reconnu, alors je suppose que toi Guillaume, tu as reconnu la voix de Doc et de McFly.
Ah bah oui, pour la voiture.
Oui, c'est un générique effectivement, alors quasiment tous les sons sont pris dans Retour vers le futur, sauf un, et puis l'intro évidemment, c'est AC/DC. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Cinérama cette année, eh bien ça va être un peu comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on va faire des chroniques sur le cinéma, on va suivre l'actualité avec les films qu'on a pu voir, on s'amusera aussi avec des blind tests et aujourd'hui eh bien on va débuter cette saison avec un blind test autour de la saga Alien, puisque durant l'été eh bien, est sorti Alien Romulus, la septième épisode de cette longue saga. Et alors toi, Manu, on va commencer avec toi. Tu as deux films.
J'ai deux premiers longs métrages, donc La Nuit se traîne de Michel Blanchard et puis Mi Bestia de Camilla Beltrán.
Et puis on parle pas tout le temps des films qui sortent sur les écrans de cinéma, on parle évidemment des films aussi qui sont sur les plateformes, et c'est ton cas, mais pour un grand réalisateur.
Et oui, un grand réalisateur qui aurait mérité un grand écran, hein, parce que comme on le sait aujourd'hui, c'est un peu compliqué de sortir tous les films au cinéma. Là, je vais vous parler du dernier film de Richard Linklater, c'est Hitman.
Mais nous allons commencer cette émission Cinérama avec la belle affaire, et si les vieux Dutch Mark de l'ex-RDA pouvaient encore avoir de la valeur, eh bien... C'est la combine que trouvent des ex-ouvriers est-allemands.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Un feel-good movie allemand pour cette rentrée, est-ce que ça vous dit? Eh bien, soyez prêts à regarder La Belle Affaire. Alors si, comme moi, vous appréciez les films traitant des sociétés communistes, car là nous sommes en plein dedans, hein, en 1990, dans une ville ouvrière de l'ex-RDA, avec un groupe d'Allemands qui décident de piquer des vieux Dutch Mark de RDA, là où ils sont entreposés pour être un jour détruits ou voués à pourrir. Eh bien, si vous aimez cela, eh bien, vous êtes là plongé à la fin de la RDA, et La Belle Affaire se place dans la description d'un monde qui a existé et qui a déçu. C'est la leçon qu'il faut tirer de cette douce comédie, emmenée notamment par Sandra Hüller. Alors Sandra Hüller, c'est la comédienne allemande qui a remporté eh bien, le César de la meilleure actrice dans Anatomie d'une chute. Alors oui, ça fait du bien de la revoir, mais dans ce film, elle ne compte pas plus que les autres, car c'est ce qui est en jeu ici. Hein. C'est la roublardise d'un groupe d'habitants qui sait où sont planqués donc des billets qui peuvent être échangés pour un bon prix en bon Dutch Mark. Un petit groupe qui, plutôt que de s'enrichir en douce, eh bien, préfère en faire profiter les voisins. L'union fait la force, un réflexe dans ce pays dirigiste et collectiviste. Mais le stratagème de blanchiment mis en place par ces ex-travailleurs est-allemands eh bien, va être l'occasion de s'interroger sur un régime enterré et un autre qui leur tend les bras, hein, le capitalisme. Alors il s'agit d'un beau projet solidaire. Alors non, il ne vole personne, cela consiste à rendre son argent au peuple.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass uns mal die Arbeit ausgeht.
Die Senioren, alles zerlegt sich. Ich glaube, wir müssen schlau sein.
Alors on entend cette douce langue allemande, hein, et la réalisatrice Nadia Brunkhorst s'est inspirée d'une vraie arnaque, hein, qui s'est déroulée en RDA où les ex-allemands de l'Est étaient invités à échanger leurs vieux Dutch Mark contre des nouveaux. La circulation de billets qui n'avaient jamais été mis en circulation a permis aux autorités de s'apercevoir que de l'argent de l'ex-RDA avait donc été blanchi. Alors combien de personnes en ont profité? Eh bien nul ne le sait. Alors le projet de la réalisatrice est de faire de ce film de casse un film traversé par des questions politiques et questionnant les libertés individuelles. Alors le souci du collectif et de l'entraide et donnant voix finalement aux sentiments. Alors c'est peut-être là une erreur, hein, de flirter avec autant de registres. Tout ce qui a trait au cas est traité sous le ton de la comédie, du culot. Alors là, ça fonctionne plutôt bien. Et la majeure partie du film nous ramène à questionner le régime de l'ex-RDA et ce qu'il a signifié pour ceux qui l'ont vu apparaître ou ceux qui sont nés dedans. Le moment où ces ex-ouvriers s'aperçoivent que leur usine fabriquer des éléments du bonheur occidental est remarquable et bien vu. Alors trahi, hein, voilà comment se sentent ces ex-ouvriers qui n'embrassent pas le capitalisme mais cherchent une autre voie. Au travers des multiples personnages, Nadia Brunkhorst tisse son récit. Là où il fait peut-être une erreur, c'est d'ajouter une couche sentimentale avec un triangle amoureux qui semble un peu abstrait et qui nourrit le questionnement sur donc, la liberté. Alors certes, ça peut être intéressant, mais c'est une question qui aurait pu être traitée de bien autre manière et mieux intégrée au récit. Alors il ressort que pour une comédie, c'est un poil long aussi, hein, ça flirte avec les deux heures. Alors la comédie a souvent besoin de rythme, là il en manque certainement, ce qui n'empêche pas quand même La Belle Affaire de se regarder avec un certain plaisir, avec un bon générique, comme je les aime, hein, dont les éléments sont repris durant le chapitrage du film. Un petit effet de mise en scène, alors que le film se fait plutôt discret, hein, sur ce terrain-là, si ce n'était bien une certaine préférence pour les travelling. Alors évidemment, même en posant son regard sur l'ex-RDA, cette Belle Affaire n'arrive pas au niveau de Goodnight Lenin, hein, évidemment, qui a marqué tous les esprits. Mais il faut bien passer à autre chose. Donc, ce film, La Belle Affaire, est sorti fin août et il est toujours sur les écrans. Un film qui est aussi sorti fin août, c'est La Nuit se traîne. La vie du jeune serrurier Maddy bascule quand il ouvre la mauvaise porte.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapables de nous tromper.
Maddy, où est l'argent? Je sais pas.
La nuit, le titre, hein, La nuit se traîne, est aussi celui d'une très belle chanson de Petula Clark, une sorte de fil rouge qui accompagne ce premier long métrage d'un jeune cinéaste à suivre, hein, Michel Blanchard, qui réalise alors tout sauf un film qui se traîne, hein, une bouffée d'air pur en ces temps cinématographiques moroses, hein, en ce qui me concerne, hein, parce que j'ai pas vu énormément de bons films récemment, surtout au mois d'août. Alors le point de départ est aussi simple qu'efficace, hein, partant d'une situation mettant dans l'embarras le personnage central, Maddy, étudiant le jour et serrurier la nuit, qui va se retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Il n'aurait pas dû accepter de dépanner Claire, enfermé dehors. Alors, en ouvrant la porte interdite, la vie du gentil Maddy va basculer pour une course contre la montre où il va devoir retrouver la trace de Claire qui a piqué une grosse somme à une figure inquiétante du banditisme local. Le compte à rebours est lancé et ne s'arrêtera qu'au lever du jour.
Cette femme, Claire, elle m'appelle et demande de lui ouvrir. J'ai où ?
Ta complice ?
Non, pas du tout, je l'avais jamais vue, je vous jure.
Toi, c'est comment ?
Maddy.
Maddy.
Si à la fin de cette nuit, t'as pas retrouvé cette fille et ce qu'elle m'a pris, tu finiras soit mort, soit en prison. Donc, tu vas m'aider, Maddy ?
Ouais.
Et c'est parti donc pour une nuit de folie bourrée d'adrénaline qui privilégie la dynamique du récit au détriment de la réflexion. Alors rien de péjoratif là-dedans, hein, car plutôt qu'énoncer les enjeux se vautrer dans de longues logorées verbales, le film déploie un univers cohérent et pertinent par l'intelligence d'une mise en scène énergique, très attentive aux détails et à son arrière-plan politique. Alors il ne s'agit pas d'un film qui étale sa pensée, mais qui inscrit une histoire dans un cadre urbain très crédible pendant une manifestation antiraciste. Cette toile de fond chaotique n'est pas seulement un artifice esthétique, un prétexte douteux dont le but serait de créer une atmosphère anxiogène, un peu à la manière du film de Romain Gavras, Athéna. Alors cet ancrage dans l'actualité permet surtout de relier, jusqu'à son épilogue intelligemment amené, la fuite effrénée de Maddy à une réalité sociale qui va ironiquement barrer sa route, lui qui ne voulait pas se mêler à une manif fustigeant les bavures policières. Alors par un coup du sort, la dimension politique va le rattraper in extremis, lié à son libre arbitre, choix qu'il décide de faire là où il aurait pu décider de ne pas se mêler des affaires des autres, de continuer lâchement son petit bonhomme de chemin. Une touche de romantisme un peu artificiel va aussi guider son regard, petite concession de ce thriller survolté.
Pourquoi t'es là ?
J'ai pas le choix.
Bien sûr que si, t'as le choix.
Que quelque chose vienne.
Oui, secours, je vous écoute.
À la première occasion, il s'est barré.
Je suis juste un putain de serrurier.
Michel Blanchard, hein, dépasse la copie du bon élève, hein, nourri de références, bon, allant de Scorsese à De Palma, d'ailleurs on pense beaucoup à After Hours, ne serait-ce que pour son attachement à écrire des personnages qui existent avec un minimum de caractérisation, ce qui rend le film encore plus impressionnant. Il y a un désir communicatif, bah, de plaire, dans le bon sens du terme, hein, de séduire le public mais sans jamais faire le malin ou de manière très discrète. Alors son anti-héros, hein, gentil mais lucide, échappe à toute récupération communautariste et idéologique. Il est noir, hein, mais il aurait pu être être blanc, asiatique ou arabe. De toute façon, il a des goûts trop vintage pour appartenir à un groupe ou à une époque. Et il est trop banal aussi pour jouer les dépressifs torturés. La réussite du film tient à l'existence de Mahdi, à l'empathie qu'il suscite dès sa première apparition, notamment grâce au jeu tout en nuances de son interprète Jonathan Feltre. Alors face à lui, en criminel impitoyable, Romain Duris, c'est parfait, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de rôle. Alors assez inquiétant, sans en faire des caisses, sobre à l'image d'un film qui ne cherche pas à épater la galerie. Pourtant, le film accumule les morceaux de bravoure, en l'occurrence toutes les chorégraphies réglées au millimètre des poursuites de voitures dans un espace nocturne à Bruxelles, magnifiquement d'ailleurs éclairé. La fluidité et la nervosité du montage camouflent aussi les tentatives de maniérisme, de cadrage parfois trop sophistiqués ou de la joliesse un peu gratuite de certains plans. Alors des afféteries pardonnables quand même pour un premier film. En revanche, quand il se permet un plan séquence étourdissant lors d'une poursuite à vélo dans le métro, le résultat est jubilatoire. Alors voilà, bilan, La nuit se traîne n'a rien de révolutionnaire, mais demeure en l'état, moi, le meilleur film d'action français vu depuis des lustres. L'incarnation idéale d'un état d'esprit perdu, celui de la série B au meilleur, ludique et tragique, virtuose et modeste. Mais, je viens de dire une bêtise, le film n'est pas français, il est belge.
C'est ce que j'allais dire.
Mais j'ai fait exprès. voilà. C'est okay. Dommage, ça aurait pu être le meilleur film d'action français, mais non, c'est la Belgique qui nous dame le pion.
Bon, il y a peut-être franco-belge.
C'était aussi avec de Florian Mulcéry.
Que je n'ai pas vu.
Oui, voilà, que tu es le seul à avoir vu.
Et qui était bien, je vous le conseille.
Nous allons maintenant faire le premier blind test de cette saison 2024-2025. Nous allons parler de la saga Alien.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Alors Alien Romulus, c'est le 7e long métrage de la saga Alien qui a profité de la fin de l'été pour sortir. L'action se déroule entre le devenu intemporel Alien, le 8e passager, sorti en 1979, et Alien, le retour en 86. La description du monde dans lequel nous sommes plongés suit en cela l'imagerie que l'on voyait dans le premier volet d'Alien. Les écrans sont ici cathodiques et même si on vole dans l'espace, on fait tout un tas de choses merveilleuses. L'image de ces écrans n'est jamais belle, il y a de gros boutons partout. Ce n'est pas l'univers aseptisé et numérique de Prometheus. Nous sommes plongés donc sur une planète qui ne voit jamais le soleil et Rain, une jeune fille flanquée de son androïde défectueux, aimerait partir pour le soleil et c'est ce que lui propose sa bande d'amis, de prendre possession d'éléments de cryogénisation d'un vaisseau abandonné par la firme dont j'ai...
Whitney.
C'est ça, oui, je l'avais pas noté.
C'est le seul fil conducteur d'à peu près tous les films.
Et oui, à chaque fois présente. Et donc, ils ont l'intention de filer avec ce matériel, ni vu ni connu, pour 9 ans de voyage. Mais les choses alors vont mal tourner. Pour ce petit monde, évidemment, à peine sorti de l'adolescence, quand ils vont réveiller des créatures, il n'y aura pas un alien, mais plusieurs. Un petit spoil, le réalisateur Fede Alvarez coche beaucoup de cases qui ramène son film à la saga. Au-delà de l'univers décrit et des aspirations des personnages, on pourra regretter un peu de massacre, un jeu de massacre, au retournement, un brin improbable. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Et il n'y a rien de la subtilité du premier volet. La mise en scène nous montre ici le monstre et l'hémoglobine. Tu l'as vu, Manu, peut-être ?
Oui, je l'ai vu. Je n'ai pas trouvé ça très bon, en fait. Et surtout, c'est étrange. D'habitude, je ne m'attache pas tellement à ça. Mais c'est bourré d'invraisemblances au début. Il y a des choses, des caissons qui se déplacent de manière étrange. D'habitude, je ne fais pas tellement attention. Alors, parce que le film n'a pas vraiment totalement captivé. Quand je me mets à faire attention à des détails de scénario, c'est que ça ne va pas trop bien. Mais j'ai été assez curieux de la faiblesse d'écriture du film. Et puis bon, moi, les teenagers, on a l'impression qu'on a un slasher dans l'espace. Et ça, c'est aussi un petit problème. Après, le film est correctement emballé. Mais...
Oui, mais il y a beaucoup de surenchères, je trouve.
Mais c'est le problème de cette époque. De toute façon, c'est un fan film qui coche certaines cases de je prends des scènes du premier, du 2, du 4 et au final ce que disait Manu, il n'y a pas vraiment de ligne de scénario, donc du coup les rebondissements improbables dont tu parlais, malheureusement ça vient de ces bouts de scotch.
Ouais. Alors on va jouer un blind test, il va falloir reconnaître, alors on va jouer avec il va falloir trouver 5 titres de films, il va falloir
5 aliens, je suppose.
Oui, 5 aliens, mais oui puisqu'on joue avec la saga. Et donc, nous commençons avec ce premier extrait.
Vous m'avez envoyé au massacre et maintenant vous voulez me réexpédier là-bas ? Pas question, c'est plus mon problème.
Je peux finir ?
Non, laissez tomber.
Ripley, vous ne serez pas mêlé au combat, je garantis votre sécurité.
Vous savez, ces Marines coloniaux sont tout sauf des amateurs. Ils ont les armes les plus sophistiquées du marché. Avec eux, on peut être tranquille. Lieutenant, c'est pas vrai ?
Mais oui, mes hommes sont entraînés à ce genre de situation.
Alors allez-y sans moi, j'aime pas jouer aux soldats.
Alors, gros indice, hein, ça va castagner.
Je sais pas, on l'a dit en même temps.
Oui. Allez-y.
Allez, c'était Aliens de James Cameron.
Alors, c'est le meilleur.
Oui, voilà. Film de 86, le film met en scène donc Ripley accompagnant un détachement de Marines coloniaux qui se rendent sur la planète élevée 426. Deuxième extrait de ce blind test consacré à la saga Alien.
Écoutez bien, sale petite fiotte. Encore une connerie comme ça, je démolis votre gueule de merdeux.
Pardon, j'avoue que je ne vous saisis guère.
Ce matin, à 7h, un message en langage codé est venu de la base. C'est la première fois, Clémence, qu'il arrive une communication d'un si haut niveau dans l'histoire de cette station à ma connaissance. Ils veulent que cette femme soit soignée comme une reine. Il paraît qu'elle est top priorité.
Pourquoi ?
Là, j'en sais rien. Mais pourquoi vous l'avez laissée sortir de l'infirmerie ? Cet accident qu'a eu Murphy, hein ? Voilà ce qui se passe lorsqu'un de ces lamentables crétins attrape une érection.
Je suis docteur, le geôlier, c'est vous.
Alors, trouvé.
Et c'est Alien 3 de David Fincher.
Oui. Sorti en 92, le vaisseau où est Ripley s'écrase sur Fiorina 16, planète où est installé un pénitencier de haute sécurité qui, effectivement, n'a pas l'habitude de recevoir des messages. Troisième extrait de ce blind test consacré à la saga Alien.
Pas la peine d'essayer de lui faire changer d'avis si
oh,
sa décision...
Je n'essaie pas de le faire changer d'avis, Dallas. Je veux juste que tu m'écoutes. Veux-tu m'écouter ? Dis-moi, comment peux-tu lui laisser ce genre de décision ?
Je me borne à commander cet appareil. Pour tout ce qui concerne le service scientifique, c'est H qui a le dernier mot.
Pourquoi a-t-il le dernier mot ?
Il a le dernier mot simplement parce que la compagnie veut qu'il l'ait.
Depuis quand est-ce un règlement en vigueur ?
Le seul règlement qui soit en vigueur, c'est de faire ce qu'ils veulent qu'on fasse.
Tu as déjà fait un voyage avec H avant celui-là ?
J'ai fait 5 voyages avec un autre officier scientifique. Il l'a remplacé par H 2 jours avant que nous ne quittions Tedus.
Je n'ai pas confiance en lui.
Moi, je n'ai confiance en personne.
Trouvé.
Eh ben, c'est le Alien de le 8e passager de oui. Ridley Scott.
Eh oui, et c'est là, c'est, ça a commencé par ça. Hein. En 79, quatrième extrait de ce blind test.
Vous croyez que venir ici, c'était une belle perte de temps ? Votre question semble impliquer que je sais ce que vous espériez accomplir en venant.
Ce qu'on voulait accomplir en venant, on voulait une réponse. Rencontrer nos créateurs. Savoir pourquoi. Pourquoi ils nous ont créés pour commencer.
Et moi, vos semblables m'ont crié, pourquoi ?
Bah, parce qu'on pouvait.
Imaginez un peu votre déception si votre créateur vous disait la même chose.
Alors, c'est trouvé !
C'est la baumifreux Prometheus.
Ah, les avis sont partagés sur ce film sorti en 2012. Alors là, il n'y a plus Ripley, hein, elle n'est plus là. Mais il y a Naomi Rapace et Michael Fassbender qui jouent un androïde. Alors, ce film précède Alien Covenant. Et ça a d'abord été voulu comme un préquel de Alien, le 8e passager, mais ça prend finalement ses aises et ça annonce Alien Covenant, donc, qui va suivre. Dernier extrait de ce blind test consacré à la grande saga Alien.
Tu as un monstre au fond de toi. Ces types ont piraté la navette où tu étais. Et ils ont vendu ton cryotube à cet homme-là. Il t'a mis un alien à l'intérieur du corps. Un spécimen très agressif. D'ici quelques heures, il va sortir en te crevant la cage thoracique. Et tu vas mourir. D'autres questions ?
Qui êtes-vous ?
Je suis la mère du monstre.
Ouh. Alors, c'est trouvé.
C'est Alien la Résurrection de Jean-Pierre Jeunet.
Oui, film sorti en 97. Des scientifiques militaires parviennent à recréer un clone d'Hélène Ripley. Et la reine alien a été extraite du ventre de Ripley et placée en captivité. Et c'est 200 ans après les événements d'Alien 3. Enfin, voilà, pour s'y retrouver.
Mal aimé, mais j'avoue que moi, c'est un de mes préférés. Parce que justement, il est très audacieux, très fun et très généreux.
C'est peut-être celui dont je me souviens le moins. Mais voilà, ainsi s'achève donc ce blind test consacré à la saga Alien, puisque est sorti sur les écrans, et toujours sur les écrans, Alien Romulus, le 7e long métrage de la saga. Parlons maintenant d'un film qui n'est pas au cinéma. Il s'agit du dernier film de Richard Linklater, Hitman, un professeur de philo, se fait passer pour un tueur à gages.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Non, je te crois pas.
Quoi ?
T'es pas tueur à gages. C'est pas possible.
Il est triste de se dire que le cinéma indépendant américain passe désormais majoritairement par les plateformes, tant certains de ses plus illustres représentants comme Richard Linklater méritent le grand écran. Alors c'est déjà son deuxième film à n'avoir qu'une sortie sur petit écran, après l'émouvant Apollo 10 et demi sorti sur Netflix, dont je vous avais déjà parlé il y a 2 ans, et ce malgré son ovation à la Mostra de Venise en 2023. Alors comme à son habitude, très prolifique, et le voici déjà de retour avec Hitman, un titre qui pourrait perturber les gamers mais qui n'a rien à voir avec la célèbre franchise de jeux du même nom. Exit-elle l'agent 47, ici on suit Gary Johnson, un professeur de psychologie et de philosophie, un être assez réservé et plutôt solitaire malgré sa grande compréhension du monde et qui vit seul avec ses 2 chats dans un petit pavillon de banlieue américaine. Mais contrairement aux autres professeurs encore en train de subir les outrages de la rentrée, lui a une activité extrascolaire extraordinaire.
J'ai fait des recherches sur toi et j'ai rien trouvé, comme si t'étais pas réel.
Je ne suis que ton fantasme.
Et c'est quoi la plus grande différence entre le vrai toi et ta profession ?
Car Gary mène une existence ordinaire, si ce n'est qu'il arrondit ses fins de mois en effectuant des plans pour la police de la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire qu'il aide à appréhender des individus qui sont ou vont être des criminels. Toujours en retrait, il aide à faire en sorte que les gens avouent, en présence d'un micro dissimulé, qu'ils ont décidé de tuer quelqu'un en engageant un tueur à gages, ce qui équivaut à des aveux et donc un séjour en prison. Un jour, l'agent qui sert de faux tueur à gages, mais vraie personne engagée par les suspects pour commettre un crime, fait un faux pas, ce qui le met sur la touche juste avant une intervention. Alors ne voulant pas risquer de faire capoter l'échange qui permettrait de sauver une vie, Gary endosse le rôle du tueur à gages lors d'un entretien lunaire et sauve la mise à l'équipe. Alors cette mission d'infiltration se révèle être un grand succès et dès lors Gary devient le faux tueur à gages attitré de l'équipe. Son collègue, furieux de voir que Gary se débrouille très bien, salue ses compétences de comédien que personne, y compris le principal intéressé, ne soupçonnait et cherche désespérément la moindre erreur de son successeur pour reprendre sa place. Manque de peau, Gary est vraiment doué à la fois dans l'art de la négociation qui amène à des aveux sans équivoque, mais également dans celui du déguisement. Car Gary s'investit totalement dans ses rôles, sait trouver le ton juste, le look parfois improbable qu'il faut, et s'adapte à chaque client pour une réussite complète. Un coup, il est un homme réservé, un coup, c'est un gros dur du Texas, un coup, c'est un psychopathe latent, un coup, c'est un homme d'affaires en costard-cravate. Chaque cas permet d'endosser une nouvelle personnalité, chose que Gary épouse admirablement bien, comme s'il était un comédien de nez. Mais l'erreur tant recherchée par son collègue va peut-être se présenter en la personne de Madison. C'est une très belle femme qui a décidé de faire appel au service d'un tueur à gages, Gary donc, pour éliminer son mari. Mais contrairement aux autres qui souhaitent en règle générale se débarrasser d'un proche ou d'une connaissance pour de l'argent, Madison est une femme battue qui utilise la dernière carte qu'elle imagine avoir pour s'en sortir.
Je me suis rendu compte que tout le monde n'imaginait pas le même assassin. Donc, je me suis dit qu'adapter le tueur à chaque client serait bien plus efficace. C'est très sérieux.
Je suis prestataire de service.
Chaque arrestation était comme une standing ovation.
Gary, même s'il connaît les risques du métier, n'en est pas moins humain et décide de l'aider tout en dissimulant la vérité à son équipe. Passant de faux tueur à vrai tueur, il pense avoir rendu à sa façon justice et, ce qui ne gâche rien à l'affaire, de cet homme à la base réservé et timide, il entame une relation avec cette magnifique apprentie criminelle avant que cette histoire rocambolesque ne prenne des tournants pour le moins inattendus et que, bien évidemment, son collègue revanchard ne vienne mettre son nez dedans. Alors, il est impossible d'aller plus loin dans la présentation de l'intrigue car ça serait gâcher le plaisir immense que procure le film. D'une histoire farfelue à un script très malin, le film est l'occasion pour Linklater de replonger dans la comédie noire teintée de policiers comme dans le brillant Bernie, non pas avec Albert Dupontel, mais avec Jack Black, assassin de Shirley MacLaine. Il y avait là déjà le goût pour la peinture d'un personnage en dehors des cases classiques de la société qui se fait remarquer pour l'une de ses aptitudes et qui va se laisser submerger par un aspect qu'il n'avait pas prévu dans son plan, normalement maîtrisé par ses capacités. Alors chez Linklater, l'accident menant à la faute ou au meurtre n'est jamais loin, menace toujours ces êtres plus ou moins véritablement naïfs, comme si l'innocence était condamnée à être contaminée par la vicissitude de la ville et de la masse qui broie les caractères d'exception. Alors parfois, ces caractères se révèlent et explosent au-delà des normes, comme dans Rock Academy, et parfois ils se font avoir par des règles impitoyables du système, comme dans le fameux Bernie précité, ou Tape, un huis clos tourné en DV et à l'épaule. Parfois, ils apprennent à grandir hein, dans ce système et à exister plus ou moins harmonieusement avec eux, hein, comme dans le magnifique Boyhood, hein, où ils se font littéralement manger par lui et la société capitaliste qui le régente, comme dans Fast Food Nation. Parfois, la solution est de devenir hein, un chemin de traverse de ce système, comme dans A Scanner Darkly, la passionnante adaptation de K. Dick, hein, le grand marginal du système s'il en est, ou bien de la refuser comme les glandeurs slackers des bien nommés slackers ou génération rebelle.
Moi, je trouve que tu commences à te relâcher un peu, c'est pas bon, ça.
Tu étais Gary ou tu étais le tueur à gages?
Je m'appelle Gary Johnson. Et ma question est simple. Qui est ton tueur à gages?
On pourrait facilement dire hein, que le film est un croisement de La femme d'à côté de François Truffaut pour l'assistant civil de vrai policier qui devient acteur principal d'une aventure hein, qui va le révéler, et de Fargo des frères Coen pour les personnages hauts en couleur et le jeu sur les différentes tonalités abordées. Hitman n'est pas qu'une comédie noire hein, et une fine étude de caractère, mais c'est aussi être une histoire d'amour touchante et extrêmement sensuelle. C'est particulièrement appréciable de voir un tel soin accordé à un personnage qui a la chance de grandir autant en 1h50 et de donner à un excellent casting l'occasion de rayonner. Powell la trouve ici, et loin de certains divertissements estivaux moins travaillés, bah, qu'il n'est pas qu'une belle gueule de plus destinée à rester dans l'ombre de Tom Cruise dans Top Gun Maverick. De même, hein, Aria Arjona n'est pas qu'une belle plante et livre une performance de jeune femme brisée par la vie qui va redécouvrir l'amour jusqu'au bout de son corps, liberté qui passe par la libération des sens. La fin du film questionne intelligemment une certaine notion de moralité sans jamais trahir l'évolution de ses personnages et achève de faire de ce film, bah, je pense, une nouvelle étude du genre humain complexe cher à Linklater. Pour moi, ce film, c'est l'incontournable de la rentrée, même s'il ne passera malheureusement pas sur grand écran.
Et oui, on rappelle donc que ce film n'est pas dans les salles de cinéma. Il est présent sur une des chaînes de Canal+, et peut-être bientôt en VOD. En tout cas, vous pourrez y accéder. Nous parlions de Hitman de Richard Linklater et nous allons terminer cette émission avec un film colombien, Mi Bestia.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire?
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Le récit de Mi Bestia se déroule en 1996 à Bogota. Une éclipse de lune imminente effraie la population superstitieuse, redoutant l'apparition du diable. Rien que ça. La ville est en ébullition, inquiète d'un tel événement. Alors de ce contexte anxiogène, Mila, 13 ans, elle vit son adolescence avec appréhension. Le regard des autres l'oppresse et elle se demande si la métamorphose de son corps n'est pas liée à la prophétie.
¿Tienen miedo al eclipse?
¿Qué cree que vaya a pasar?
Récemment, hein, Tiger Stripes abordait un sujet similaire entre l'apparition des règles et la métamorphose physique d'une adolescente. Mais à la différence de la fable féministe convenue et surtout très tendance de Tiger Stripes, hein, Camilla Beltrán, artiste complète qui vient des arts visuels, ne cherche pas à plaire à tout prix, dérive du côté du cinéma expérimental par sa forme très austère. Alors le chef opérateur Sylvain Verdet, connu pour son travail sur Ultra Pulp de Mandico, hein, a tourné à une cadence de 8 à 16 images par seconde. Ce procédé n'est pas nouveau, présent notamment dans le magnifique Chungking Express hein, de Wong Kar-wai, mais c'est une première dans un film traditionnel dans son intégralité. Alors le résultat est aussi curieux que déroutant, voire parfois pénible. Dans un style mi-documentaire, mi-artistique, Beltrán et son chef opérateur hein, ont cherché à retrouver un côté immersif de répulsion de Polanski. Hein. La cinéaste le cite d'ailleurs, hein, où la caméra portée ne lâchait pas son héroïne, créant ainsi une tension permanente. Alors certains effets saccadés dans le rendu parviennent à installer une atmosphère oppressante, un raccord avec le sujet, mais cette forme radicale hein, proche parfois de l'art brut hein, volontairement ingrate, hein, m'a quand même sorti du film au bout de 30 minutes hein, ce qui a fait que je me suis quand même désintéressé et je me suis dit que c'était vraiment un film intéressant mais que j'étais passé à côté et je suis revenu un peu vers la fin quand, dans une forme de procession qui évoque le film de folk horror, mais sinon voilà, j'ai assisté à un film un peu détaché en me disant que c'était peut-être de ma faute.
À vous de juger. Mi Bestia est en salle actuellement.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième émission de cette saison. J'aurai le plaisir de vous parler des Graines du figuier sauvage, film de Mohamed Rassoulof qui a fait sensation au dernier Festival de Cannes où il a remporté le prix spécial du jury. Et vous, messieurs?
Moi, ce sera le Léopard des neiges.
Et moi, un film qui porte bien son nom, Kill.
À la semaine prochaine.